Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Plusieurs réactions ont été enregistrées au sein de la classe politique congolaise après la promulgation le 3 juillet par le président de la République de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, telle que modifiée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés de l'opposition dénoncent la modification apportée par l'Union sacrée qui veut politiser la CENI pour une fraude électorale en 2023. Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, estime que cette loi va compromettre la crédibilité des prochaines élections. La plateforme Elamouka, de son côté, invite le peuple à rejeter cette loi par des actions de terrain. Et pour les députés de l'Union sacrée, le chef de l'État n'a fait que respecter la procédure constitutionnelle. Que pensez-vous des différentes réactions après la promulgation de cette loi? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Mme Chantal Mogoni et le secrétaire national chargé de la communication du parti politique SID et communicante de la plateforme Elamouka. Bonsoir Mme Chantal Mogoni.
Bonsoir.
Augustin Mulumba, il est député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir honorable Augustin Mulumba.
Bonsoir Monsieur Dieu.
Et Bishop Djamba, directeur exécutif du réseau Gouvernance économique et démocratie, REGED en sigle, il est l'un des acteurs majeurs de la société civile en matière électorale. Bonsoir Bishop Djamba.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Nous le disions dans les sommaires, les députés de l'opposition et ceux de l'Union sacrée ne mettent pas sur la même longueur d'onde sur la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, telle que modifiée par l'Assemblée nationale et le Sénat et promulguée le 3 juillet dernier par le chef de l'État. Les députés de l'opposition estiment que cette modification constitue un passage en force de l'Union sacrée qui veut politiser la CENI en vue de favoriser la fraude électorale en 2023. Pour sa part, l'Union sacrée répond que l'examen de cette loi a été régulier dans les deux chambres du Parlement et que toutes les dispositions ont été votées par la majorité des parlementaires. On écoute ces reportages de Michel Kifindangoy.
Surpris de cette promulgation jugée de passage en force du chef de l'État et de l'Union sacrée, les députés du FCC estiment que cette loi va compromettre la crédibilité des prochaines élections. André Tamboué.
Le président de la République a pris décidément l'option de défier tous les acquis démocratiques. J'invite également la société civile à ne plus collaborer avec les institutions actuelles dans le sens d'entériner un processus électoral complètement biaisé.
Pour la Mouka Pro Martin Fayoulou, le peuple devrait simplement rejeter cette loi par des actions de terrain. Ados Ndombasi.
Ce que nous voulons, c'est une CENI totalement dépolitisée. Mais nous constatons que M. Tshisekedi installe de manière cynique le canapé qui accueillera la fraude électorale en 2023.
Les députés de l'Union sacrée estiment que le chef de l'État n'a respecté que la procédure constitutionnelle en vigueur. Daniel Mbao.
Lorsque une loi a été examinée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, la suite logique c'est la saisine de la Cour constitutionnelle et puis finalement la promulgation. Ces revendications auraient été portées par des députés nationaux ou des sénateurs en plénière ou en commission.
La loi de la CENI étant déjà en vigueur, il ne reste que la mise en place du nouveau bureau de la CENI afin de lancer le processus électoral de 2023.
Merci à vous, Michel Kifindangoy, pour ces reportages. Madame Chantal Mogoni, vous êtes secrétaire nationale chargée de la communication du parti politique SID et communicante de la plateforme Lamouka. La loi sur la CENI vient d'être promulguée par le chef de l'État. Et tout de suite, Lamouka invite le peuple à rejeter cette loi. Pourquoi, madame?
Merci beaucoup. Nous devons dire que la politisation à outrance de la CENI est un acte de haute trahison de la volonté du peuple touché dans le préambule de la Constitution et qui a été adopté par référendum. Nous sommes tous sans ignorer que les élections qui se sont déroulées dans le pays n'ont pas été de bonnes élections. Pourtant, la volonté nationale, la volonté souveraine du peuple congolais voulait que nous ayons des élections transparentes, impartiales, crédible. Et cette fille que nos frères s'accommodent à préparer le décor pour la tricherie électorale à venir. Raison pour laquelle nous avons constaté que ce forcing qui est en train de se faire au niveau de l'Assemblée nationale par le régime actuel est en train de défier le peuple congolais. Comment pouvez-vous accepter qu'après 3 cycles électoraux, après avoir constaté les lacunes nous offertes par la CENI, après avoir constaté cette crise récurrente d'illégitimité qui s'affirme même dans le préambule de notre Constitution, étant donné que nous tous nous sommes conscients que les élections ne se sont pas très bien déroulées, nous devrions plutôt apporter un mécanisme de correction qui consiste à avoir un consensus autour de réformes pour pouvoir doter le pays des institutions légitimes et crédibles de façon à pouvoir être redevable au peuple congolais. Mais aujourd'hui, que le bureau de la CENI soit dirigé par la majorité au pouvoir, une majorité qu'eux-mêmes ont qualifiée d'artificielle, une majorité composée par les députés qu'eux-mêmes ont qualifiée de nommés, une majorité qui est détestée par eux-mêmes, partenaires de cette coalition de l'Union sacrée FCC, nous pensons aujourd'hui qu'il est impérieux de pouvoir nous réunir autour d'un consensus afin de pouvoir résoudre ce problème de légitimité pour pouvoir donner aux générations futures les fondamentaux du développement. Faute de quoi, ça sera perpétuer la fraude électorale. Raison pour laquelle nous demandons à ce qu'il y ait retrait de cette loi et que le peuple se prenne en charge parce que c'est le peuple congolais, conformément à l'article 5 de la Constitution, qui doit décider de ses dirigeants. Ça n'appartient pas à un groupe d'individus de pouvoir se mettre ensemble pour préparer les décors du hold-up électoral à venir.
Oui, Madame Modoni, la politisation à outrance que vous dénoncez, c'est en fonction des animateurs qui seront appelés à diriger les bureaux de cette CENI ou c'est en fonction d'éventuelles interférences que vous supposez aujourd'hui, que vous redoutez de la part des hommes politiques dans la gestion de ces futurs bureaux de la CENI?
Au regard des 3 cycles électoraux que nous avions déjà connus dans le pays, nous avions vu comment l'influence politique a changé toutes les données et nous a donné des résultats avec un compromis à l'Africain, comme le disait le client. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter cela, c'est pour cela que nous avions dit ceci. Nous devons réduire l'influence des politiques au niveau de la direction de la CENI. Il faille avoir les 8 confessions religieuses et avoir les forces sociales autres que ces confessions religieuses qui doivent au total faire 16 personnes. Nous devons avoir un rapporteur qui sera pris suivant un appel à la candidature et que cette gestion de la CENI soit rotative. Nous ne voulons plus avoir un chef de la CENI totalitaire, mais plutôt un porte-parole qui doit travailler en collège avec les autres de façon à ce que nous ayons une CENI qui ne soit pas sous l'influence des politiques. Et nous sommes allés plus loin pour dire qu'il faudrait aussi éclater le secrétariat exécutif national. Comment voudriez-vous qu'une seule personne ait un pouvoir totalitaire de pouvoir décider du sort du peuple dès le début des opérations jusqu'à sa fin? Non, il est souhaitable d'avoir 3 secrétariats nationaux. Nous avons un secrétariat national et l'autre secrétariat national en charge des opérations et le troisième en charge du traitement. Nous avons pensé que avec le 8 confessions religieuses, avec les rapporteurs, nous aurons 17 membres et au regard des élections dernières que nous venions d'avoir au pays, considérant le cote de chaque personnalité suivant leur positionnement, nous avions compris qu'il fallait prendre les trois personnalités qui ont eu beaucoup de points à la dernière élection présidentielle et qui, à travers cette plateforme de ces trois personnalités, on nous donne deux personnes, nous aurons six personnes. Ajoutées à ces 17 personnes, nous aurons une plénière de 23 personnes et cela nous permettra de réduire le risque d'avoir un chef totalitaire, d'avoir un chef sous influence politique et qui devait seul décider du sort d'un peuple sur base d'une clé USB et anticonstitutionnellement.
Et donc, la Mouka souhaite que la CENI soit dirigée majoritairement, n'est-ce pas, par la société civile. Or, ouais. Les trois cycles électoraux que le pays a connus ont été gérés par trois différents bureaux de la CENI, tous présidés par la société civile, des personnes qui ont été, n'est-ce pas, déléguées par les confessions religieuses. Et pourtant, ce sont des cycles qui ont abouti à des élections contestées. Madame Mouboni, qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, les délégués de la société civile qui seront, n'est-ce pas, ou qui seraient proposés par les différentes confessions religieuses se distingueraient de ceux qui ont présidé les différents bureaux de la CENI jusque-là?
Le problème, c'est d'avoir la direction de la CENI et l'autre côté, c'est le système de travail. Les autres ont travaillé, c'est vrai, ils ont travaillé et le système était tel que l'influence politique était très aiguë. Quand vous avez 13 personnes dans le bureau et que 7 proviennent de la politique, c'est-à-dire déjà, vous avez une influence politique qui se fait sentir, même pendant le vote et consort, il y aura toujours cette tendance de pouvoir porter le bras vers le politique.
Madame Boni, vous êtes dans ces pays, vous savez ce qui s'est dit au sujet de la société civile. Hein? On a toujours qualifié la société civile dans ces pays comme étant une société très politisée, trop politisée même. Vous pensez qu'il suffit seulement qu'une personne se fasse passer pour membre de la société civile pour que la personne soit crédible?
Le problème de l'immoralité ou de la corruption, c'est un problème national. Mais cela ne peut pas nous empêcher, nous, de pouvoir trouver les dignes fils du pays qui puissent servir le pays. Nous avons donné le moyen pour verrouiller la fraude ou la tricherie. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une gestion rotative. Nous avions demandé à ce que nous puissions éclater le secrétariat national en trois. Nous avions demandé à ce que nous ayons 8 commissions. Et ces 8 commissions seront dirigées chacune par un membre de confession religieuse et suivi d'un autre membre de force venue de force sociale. Nous pensons qu'avec ce système de travail, avec cette rotation dans la gestion, avec les attributions qui sont scindées, avec cette collégialité, on n'aura pas beaucoup de probabilités à ce que quelqu'un puisse décider du sort de tout un peuple lui seul. C'est ça le problème. Nous avions vu ici quel a été le rôle joué par M. Bassengezi comme vice-président au niveau de la CENI. Nous avons vu le rôle joué par Nama comme président de la CENI. Nous sommes allés même plus loin, que ce soit sur le plan structurel, que ce soit sur le plan organisationnel, que ce soit sur le plan des finances, l'autonomie financière. Nous sommes allés plus loin, jusque même à pouvoir chercher un caissier qui soit venu de comptables d'État. Donc, nous avons mis tout un système et à travers ce système, ça ne permettra pas à ce qu'une seule personne, sur instruction de sa plateforme politique, puisse décider du sort du souverain primaire.
Trois secrétariats exécutifs nationaux, gestion rotative. Madame Mouboni, vous avez des députés à l'Assemblée nationale, hein, certainement qu'ils ont participé au débat. Et c'était, n'est-ce pas, une occasion pour SID ou la Mouka, à travers ces parlementaires, de pouvoir faire valoir, n'est-ce pas, ses points de vue.
Merci beaucoup. Vous savez que nos députés ont été légitimement élus. Ils ont un contrat avec le peuple, ils doivent siéger. Et ils sont là-bas parce que c'est eux qui doivent nous informer sur tout ce qui se passe là-bas, comme sur tout le complot qui se fait contre le peuple congolais. Donc, vous savez très bien que cette majorité des transhumances, ici de l'achat de conscience, par des stratégies et des méthodes basée sur des antivaleurs ne permettra pas à ce que la voix de nos députés soit écoutée. Comment ils pouvaient changer la décision des gens qui se sont focalisés, se sont coalisés dans la transhumance, moyennant achat de conscience pour pouvoir décider du sort de ce peuple-là. Ils sont en train de faire leur travail, ils sont là, ils ont dénoncé, ils sont en train de parler, ils ont réagi, mais quand il s'agit de vote, quand il s'agit de prendre des décisions, comprenez que c'est le nombre qui est en train de compter.
Merci, merci. Nous allons vous redonner la parole, Madame Mboboni. Augustin Mulumba, député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Que pensez-vous de toutes ces différentes réactions après la promulgation de cette loi sur la CENI? Vous venez de suivre Madame Mboboni, qui est cadre de la plateforme Eramouka.
Merci beaucoup, M. Guy. La promulgation de cette loi, qui est une obligation continuelle du président de la République, conformément à l'article 140, est intervenue après un avis de conformité à la Constitution émis par la Cour constitutionnelle à travers son arrêt du 1er juillet dernier. Cette loi portant en application le complément de la Commission électorale nationale indépendante, adoptée au Parlement après un examen approfondi article par article. En première et seconde lecture, respectivement à l'Assemblée nationale et au Sénat, jette les passerelles et balise les chemins vers l'organisation des élections souhaitées crédibles, transparentes dans les délais. Parler de la politisation de la CENI, je crois que c'est un problème de concept ou d'approche. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui que l'AMUKA et le Martin Foyoulou et le FCC parlent le même langage. Alors, bien que nous avons travaillé d'arrache-pied, comme je dirais, de l'introduction à la conclusion avec nos amis du FCC. Maintenant, la question qu'il faut se poser, l'AMUKA est bel et bien représenté à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, si je ne m'abuse pas. Pourquoi n'a-t-on pas amené les amendements, que ce soit en plénière ou en commission PAJ? Donc, nous sommes en train de nous poser plusieurs fois la question, et ce sont des propos parfois populistes pour distraire la population. Ce qui est plus rassurant, dans cette loi, il y a plusieurs dispositions qui renforcent la neutralité, l'impartialité et l'indépendance du processus de membres de la CENI. Comme je le disais tout à l'heure, la fois passée dans notre émission, contre les pressions des tiers, y compris de ceux qui nous ont désignés. Donc c'est une avancée trop significative. Nous attendons aujourd'hui que les gens de tous les bords se préparent pour les élections.
On vous accuse, Augustin Mulumba, on accuse l'Union sacrée, les députés de l'Union sacrée de la nation, de vouloir politiser la CENI pour préparer la fraude des élections de 2023. Est-ce qu'on n'a pas raison de vous soupçonner ainsi parce que, selon Madame Mboboni, vous avez refusé, n'est-ce pas, d'intégrer les avis de la minorité, vous n'avez pas tenu compte, n'est-ce pas, des points de vue qui ont été, n'est-ce pas, exprimés par les députés minoritaires à l'Assemblée nationale et au Sénat?
Pas du tout, c'est un mensonge, je crois, parce qu'il y a un cadre approprié où l'on doit déposer les amendements. La proposition a été traitée en plénière, comme je venais tout à l'heure de le dire. On n'a vu aucun député de l'AMUKA porter ses amendements. Nous avons été en commission PAJ, on n'a vu aucun amendement. Je crois que madame vient de vous dire, il a parlé d'une présidence rotative. Je crois que ça se trouve dans la loi de l'AMUKA de Martin Foyoul, qui n'a pas été déposée à l'Assemblée nationale. Je pense bien que nous n'avons pas l'intérêt à organiser des fraudes. Quand on parle de la dépolitisation de la CENI, une institution d'après la démocratie, de par sa nature, de par l'essence, c'est une institution hautement politique. C'est comme je dirais, j'ai pas emprunté les termes de mon collègue qui disait, c'est comme on peut demander à l'AMUKA de dépolitiser l'AMUKA, qui est d'abord une plateforme électorale, je ne sais pas, une plateforme politique. Donc nous n'avons pas voulu ou l'intérêt de politiser, de par l'essence, de par même la loi, le texte martyr que l'initiateur avait déposé. Je crois qu'il a bien parlé de 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition, 5 pour la société civile. Donc c'est tout clair. Ce que nous avions apporté, c'est de la logistique, de la grammaire, de la conformité à la Constitution. Voilà comment le texte a été traité en commission, que ce soit en plénière.
L'interférence des dirigeants politiques dans le travail de la CENI, que vous avez toujours dénoncé quand vous étiez dans l'opposition, là je parle de l'UDPS, vous ne redoutez plus cette éventuelle interférence maintenant que vous êtes au pouvoir, Augustin Mulumba?
Si maintenant nous avons rapporté certains dispositifs, une fois que les membres sont nommés, en terminant l'Assemblée nationale, ils doivent directement être indépendants. Ils doivent être à l'écart de toutes les pressions de ceux qui les ont désignés. Ce qui est maintenant une nouveauté ou quelques modifications que nous avons émises dans le nouveau texte.
Oui, est-ce que le problème de fond n'est pas aussi la volonté politique? Parce qu'on peut avoir des membres d'une CENI qui soient de probité morale prouvée, mais si de la part de ceux qui sont en train de gérer les pays, il n'y a pas cette volonté politique d'organiser des élections, de bonnes élections, ces gens seront chaque fois, n'est-ce pas, butés à des pressions de la part du régime, à des pressions de la part des politiques, afin de faire leur volonté. Est-ce que ce n'est pas un problème d'abord d'hommes, les hommes qui sont à la tête du pays?
Non, mais le président de la République, c'est quelqu'un de très respectueux. Il respecte ses engagements. Je crois que vous lirez bien dans l'article 12 de notre texte ici, ça stipule que si les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté intellectuelle. Je ne pense pas que le Congo aujourd'hui, son problème, ce n'est même pas le texte, c'est un problème d'hommes. Comme nous voulons aller aux élections, les gens ont mal interprété le propos du président de la République. Nous voudrions que les gens se mettent dans les préparatifs des élections. Nous sommes là pour organiser les élections dans les délais et de très bonnes élections, transparentes.
Vous avez suivi Mme Moboni qui propose comme mécanisme de correction un consensus autour de cette question.
Bon, je crois que Mme a parlé, ils ont opté depuis la nuit des temps pour un négativisme créé. Il y a un cadre spécifique dans lequel on pouvait travailler. S'ils avaient leurs propositions, ils auraient dû déposer au bureau de l'Assemblée nationale. S'ils avaient des amendements, il y avait un cadre dans lequel on pouvait déposer ces amendements. Mais aujourd'hui, ils ont opté pour des propos populistes pour détruire l'opinion et la population. Je crois qu'il faille bien se reposer et demander à la MUCA de pouvoir préparer les élections parce que même les endroits que c'est demain, hein, ce n'est pas plus loin.
Merci Bishop Djamba, directeur exécutif du réseau Gouvernance économique et démocratie REGED en sigle. Vous êtes l'un des acteurs majeurs de la société civile en matière électorale. Est-ce que vous comprenez toutes ces réactions suscitées par la promulgation de la loi sur la CENI?
Oui, je comprends. Je comprends parce que cela signifie qu'il n'y a pas eu un grand consensus, un consensus large autour de la réforme qui a été opérée. Dès le départ, la société civile avait demandé qu'il y ait une réforme consensuelle. Donc si aujourd'hui il y a des remous par rapport à la loi qui a été promulguée, ce n'est pas tant par le fait que la loi a été promulguée, c'est tout simplement parce qu'on comprend qu'il n'y a pas eu un large consensus autour des options, parce qu'il n'y a pas eu de débat sur les options, à notre avis. Et je crois que les différents communiqués de la société civile l'ont dit. On aurait dû débattre des options pour comprendre, par exemple, de manière consensuelle, c'est quoi la dépolitisation de la CENI. Comprendre de manière consensuelle, c'est quoi l'indépendance de la CENI. Et de manière consensuelle, c'est quoi la transparence de la CENI, qui étaient les objectifs de la réforme pour la société civile. Alors, on ne peut pas entamer une réforme pour ne pas résoudre les problèmes qui se posent réellement.
Bishop Djamba, justement, il y a ces problèmes de perception par rapport au concept que vous venez d'évoquer, dépolitisation de la CENI, indépendance de la CENI. Qu'entend la société civile par dépolitisation de la CENI et indépendance de la CENI?
Exactement. Nous nous sommes suffisamment exprimés là-dessus, mais il a semblé que, au moment venu, lorsqu'on a entamé la réforme, on n'a pas voulu interroger la société civile sur sa compréhension de l'indépendance, qui est une compréhension tirée des principes même universels de l'organisation des élections. En fait, quand nous parlons de l'indépendance, nous voulons que la CENI soit une organisation ou, si vous voulez, une structure non partisane. Donc, dans cette dépolitisation et dans cette indépendance, il ne s'agit pas tout simplement de soustraire la CENI de l'influence des partis politiques ou des institutions, mais aussi de toutes les parties prenantes. Il y a des parties prenantes qui peuvent avoir de l'influence sur la CENI, au point que la CENI n'opère plus de son propre chef. Et c'est donc de cela qu'il s'agit. Et pour nous, la dépolitisation ne vient pas seulement du fait de la composition. C'est pourquoi, par exemple, dans ce que l'honorable Lutundula avait proposé, 5 candidats désignés par chacune des 3 grandes composantes du processus électoral, et nous avons accepté cela. Mais il y a beaucoup d'autres mécanismes qui devaient être intégrés dans la loi pour changer les systèmes qui étaient là avec la législation passée. Par exemple, tout à l'heure, vous avez entendu parler de la notion de personnalité indépendante. Ce n'est pas défini dans la loi. Avec cette disposition parlant des personnalités indépendantes, les partis politiques ont désigné des hauts cadres à la CENI. Alors, est-ce que les hauts cadres d'un parti politique peuvent être considérés comme personnalités indépendantes? C'est à la désignation que la personnalité doit être indépendante, et pas après. On dit qu'ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes. C'est avant la désignation qu'on doit dire que la personnalité est indépendante. C'est avant. Et donc, il a fallu que les législateurs précisent les critères par lesquels on peut pouvoir évaluer l'indépendance d'une personnalité. Et ça, ce n'est pas ressorti dans la loi, parce que nous avions insisté là-dedans, la proposition de Lutundula avait aussi formulé des critères là-dessus. Alors, il y a aussi le système même, donc le processus même de désignation. Est-ce que le processus de désignation est à l'abri de l'influence extérieure? Et nous avons entendu, par exemple, récemment, en ce qui concerne la désignation de M. Malonda, qu'il y a eu des soupçons de corruption. Est-ce que le système qui a été maintenu dans la loi permettra qu'on puisse mettre la procédure de désignation à l'abri de corruption ou bien même de toute autre influence? C'est toutes ces questions-là. Et donc, si cela n'a pas été rencontré dans la loi qui est promulguée, vous comprenez que on continuera toujours à pouvoir faire la pression, de sorte que même à la prochaine réforme, qu'on puisse obtenir ça. Ce qui a été obtenu maintenant, c'est des pas, bien sûr, mais nous considérons que c'est des petits pas qu'on capitalise, mais il va falloir beaucoup plus, parce que la loi nous aurait garanti, justement, la présence à la CENI de personnalités qui soient intègres, qui soient d'une probité morale éprouvée, et aussi tout un système de contrôle, un système d'évaluation et même un système de participation des parties prenantes au processus électoral qui pouvait faire en sorte que le tout mis ensemble, on obtiendrait une CENI indépendante, dépolitisée et transparente.
Alors pendant que cette loi était en cours d'examen, la société civile n'avait-elle pas la possibilité d'apporter ces modifications que vous venez d'évoquer, notamment définir des concepts comme indépendance, comme dépolitisation, les processus de désignation, n'est-ce pas, des animateurs? La société civile n'avait pas la possibilité d'insérer ces différentes propositions?
Non, parce que la société civile n'a pas le pouvoir de décision, justement. Mais ce que nous avions fait, c'est de transmettre nos propositions. Nous avons transmis nos propositions au président de la République, au premier ministre, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et nous avons transmis, nous avons eu des débats avec les institutions publiques. Nous avons même été approchés par la commission PAJ. C'est déjà un premier pas pour que nos élus, nos dirigeants comprennent qu'en réalité, lorsqu'ils sont en train de légiférer, c'est pour les citoyens. Donc, les lois devraient traduire les aspirations des citoyens. Et donc, nous avons déposé toutes nos propositions avec chaque fois le problème à résoudre et puis la proposition pour résoudre ce problème, mais cela n'a pas été suivi de manière conséquente. C'est ça que nous déplorons.
Merci.
Nous étions là, nous avions proposé, mais nous n'avons pas été suffisamment écoutés.
Merci.
Et donc, nous n'avions pas le pouvoir de modifier, parce que ceux qui avaient la décision, c'était les parlementaires.
Merci, Bishop Diamba. Nous allons vous redonner la parole. Madame Chantal Moboni, nous passons au point de vue, n'est-ce pas, des auditeurs qui sont en train d'appeler pour proposer des pistes et des solutions. Nous allons écouter cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis les Kasaï Central, à laquelle Madame Chantal Moboni, vous allez réagir.
Maître Alidor Mampouya, avocat au barreau du Kasaï Central, résident dans la ville de Kananga. Dans un État qui se veut démocratique, comme la RDC, la liberté d'opinion et d'expression est consacrée. Cela nous pousse à dire que les réactions qui fusent de partout sur la promulgation de la loi sur la CENI sont mal, car ça traduit la consécration de la liberté d'expression et d'opinion. Le processus ayant abouti à la promulgation de cette loi a respecté les normes à laquelle il n'y a pas juste de procédure. Ce que nous pouvons demander aux politiciens congolais, et de bannir avec leur mauvaise politique d'utiliser le peuple congolais comme bouclier humain pour leurs intérêts politiques, partisans et personnels. Le peuple congolais a besoin d'amélioration de ses conditions socio-professionnelles. On ne voit aucun politicien congolais se préoccuper de cela. Mais ils sont là seulement pour attiser le feu en créant des guerres tribales, cliniques, des conflits d'intérêts, des leaderships, que sais-je encore, pendant que le peuple congolais est clochardisé.
Madame Chantal Mobouni, votre réaction?
Oui, merci beaucoup. Je pense que les institutions classiques, celles d'appui à la démocratie, doivent être le reflet d'un état de droit. Un état démocratique, un état indépendant, et un état où la souveraineté du peuple est affirmée comme dans l'article 5 de la Constitution. Ici, ce que nous disons, c'est par rapport à ce que nous voulons que notre pays soit développé. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que nous devrions aller dans le cadre du Parlement, étant donné que eux-mêmes reconnaissent que cette majorité qui est dans ce Parlement est une majorité artificielle. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte que nous devons tous comprendre. Nous avons des institutions qui sont ici viol d'ordre électoral. L'expression de la souveraineté du peuple n'a pas été respectée. Et dans le cas de figure, qu'est-ce qu'il faille faire? Il faille faire un consensus de façon à pouvoir aider le pays à redécoller. Ce n'est pas une question de faire la politique pour les intérêts égoïstes ou comment, mais plutôt c'est une question de valeur, c'est une question de responsabilité, c'est une question de sursaut patriotique et de la dignité de tout un peuple. Moi, je pense que nos amis doivent comprendre. Aujourd'hui, ils nous disent que les institutions ont suivi, la loi a suivi le parcours normal des institutions et consorts. Quelles institutions en question? Nous sommes tous conscients que cette cour constitutionnelle a été mise en place en violation de la loi et cette cour constitutionnelle est redevable à sa source de pouvoir. Aujourd'hui, nous parlons en tant que peuple et nous devons respecter la Constitution. Il n'appartient pas aux seuls députés qui n'ont pas été élus par le peuple de pouvoir décider du destin de tout un peuple. Vous venez d'entendre la voix de la société civile. Quand il n'y a pas consensus, dans un contexte post-électoral émaillé de fraude, de la tricherie, vous pensez que vous êtes en train de construire? Je voulais dire à mon frère de l'UDPS que nous n'avons pas peur des élections. Et même en 2023, ce n'est pas nous, la Mouka, qui serons votre adversaire. Votre adversaire sera le bilan de votre régime. Votre adversaire sera l'incapacité de pouvoir résoudre le problème du peuple. Et j'aimerais m'adresser à mon compatriote qui vient d'appeler. Il doit savoir que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de l'illégitimité. On ne peut pas aborder des questions sociales, on ne peut pas avoir des solutions adéquates sur le social du peuple si on n'arrive pas à respecter les choix du souverain primaire.
Merci.
Respecter la Constitution, c'est prendre en compte ce qui est écrit dans le préambule de notre Constitution. Nous sommes allés à Saint-City parce que nous voudrions solutionner une fois pour toutes ces problèmes d'illégitimité. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, parce que il faut protéger le pouvoir, que nous puissions faire des réformes sans cynique.
Merci, et madame.
Je cite par là pour dire que nous sommes en train de chercher à asseoir le pays sur des valeurs démocratiques, des valeurs d'un État qui se veut un État de droit. Alors nous devons respecter le souverain primaire.
Merci.
Pour ce faire, nous devons avoir un consensus autour de ces réformes pour que le pays décolle.
Merci.
Sinon, c'est un droit constitutionnel pour un peuple de pouvoir
résister contre le groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force.
Merci Madame Moboni. Augustin Moulumba, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelait, qui est en train de nous appeler depuis Goma au Nord Kivu.
Je suis Ferdinand Kendamina, à partir de Goma dans la province du Nord Kivu. Je suis vraiment désolé de constater que le pouvoir actuel avec à sa tête l'IDPS ne fait que rééditer la même chose qu'on critiquait à l'époque du FCC, passage en force des différentes lois, et surtout celle pour laquelle l'ancienne opposition politique s'était vraiment bâtie à l'époque. Comprenez que lorsqu'il y a déjà dirigé tout au début du processus, la suite ne sera que parsemée de contestations. Et finalement, la RDC n'aura jamais des élections crédibles et apaisées. Mais le président de la République, en sa qualité de père de la nation, devrait être au-dessus de la mêlée en renvoyant la loi en question au Parlement pour réexamen. Attendons alors voir l'exploit de la Cour constitutionnelle qui reste le dernier rempart.
Augustin Moulumba.
Oui, merci beaucoup. Je l'ai suivi, mais je crois que, comme je le disais tout à l'heure, cette proposition de loi qui venait d'ailleurs de l'opposition, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand le prof Lutundu l'a déposé, il était encore à l'opposition. Ça a suivi le processus normal. Le président n'a fait que respecter la Constitution. Il n'y a aucune intention ni d'organiser la fraude, ni de faire quoi que ce soit. C'est la seule proposition qu'on avait sur la réforme de la loi électorale et de la CENI. Donc, nous n'avons aucunement l'intention d'organiser une quelconque fraude ou de faire quelque chose. Nous voudrons doter à la CENI les moyens d'organiser les élections en 2023 comme le prévoit la Constitution. Donc, je crois que le président et nous-mêmes, nous sommes respectueux des engagements. Nous ne pouvons pas aller pour tripoter les choses. Nous voudrions que les choses se passent bien dans la bonne mesure. Et cette loi, d'ailleurs, c'est que si on peut faire une approche comparative, cette proposition ou ce texte par rapport au premier, il est meilleur, si on peut bien le dire. Il est limpide, parce qu'il a quand même des contraintes aux membres qui seront élus ou seront désignés demain. Donc, ce que nous voudrions, c'est que les élections se tiennent dans les délais impartis par la Constitution.
Voilà, vous voulez que les élections se passent dans des bonnes conditions, que nous puissions avoir des bonnes élections. Mais pourquoi vous n'avez pas tenu compte des propositions déposées au Parlement par la société civile?
Non, d'ailleurs, les collaborateurs qui parlent là, nous avons été, moi j'étais encore deuxième vice-président de la Commission PAJ, nous avons travaillé d'arrache-pied avec lui. Toutes les propositions déposées, nous avons tenu compte de ça. Les restes sont des populismes, de l'indicativisme. Personne n'a déposé sa proposition et qu'on n'a pas pris en compte.
Merci.
Nous avons pris en compte les propositions de tous ceux qui ont déposé.
Merci. Bishop Djamba, vous allez aussi réagir à la réflexion de cet auditeur qui est en train de nous appeler de Kinshasa.
Je m'appelle Douad Mwamba, depuis la ville de Kinshasa. Le chemin est maintenant balisé pour la tenue des élections 2023. Vouloir rejeter cette loi, c'est souhaiter un glissement pour se retrouver autour d'une table, comme c'est l'habitude des politiques congolais.
Oui, Bishop Djamba.
Oui, nous ne parlons pas de rejeter la loi. La loi a suivi la procédure normale. Quand je suis intervenu, j'ai dit que ce n'est pas tant le problème de la promulgation. Nous sommes en train ici de discuter sur le contenu de la loi. Parce que la Cour peut avoir analyser la proposition et aboutir à la conclusion qu'elle est conforme à la Constitution. Mais il y aura une analyse approfondie qui va continuer, qui ne va pas s'arrêter seulement ici au niveau national, qui va aller au niveau dans des instances au niveau international et tout cela. Il y a tout un critère qui sont retenus autour d'une loi de qualité pour organiser le processus électoral. Tout cela sera analysé. Et nous, au niveau de la société civile, nous continuerons à analyser et nous continuerons les plaidoyer pour que, à la première occasion, la première opportunité, qu'on puisse améliorer parce que nous sommes restés insatisfaits par rapport aux propositions que nous avons faites.
Merci.
C'est ce que nous disons. Nous ne parlons pas de rejeter la loi parce que, bon, on va organiser avec cette loi-là, comme on a organisé aussi tous les autres processus avec des lois qui étaient là, mais il y a eu des problèmes.
Merci.
Donc nous avons voulu anticiper cette fois-ci pour qu'on ne puisse plus reconnaître, se retrouver dans les mêmes situations qu'on a connues dans les trois cycles électoraux passés.
Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. On va commencer à conclure. Madame Chantal Mobony, la loi a été promulguée. Et à votre avis, comment peut-on, avec la même loi, arriver à organiser les élections qui soient acceptées par tous? Comment peut-on organiser les bonnes élections avec la même loi, Madame Chantal Mobony?
Merci beaucoup. Nous disons que cette loi ne nous concerne pas, étant donné que cette loi a été votée par des personnes qui n'ont pas qualité. Parce que eux-mêmes reconnaissent que cette majorité artificielle elle est écrasante. Dans un contexte post-électoral, nous continuons à insister qu'il faille un consensus national autour de réformes. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui construire une maison tout en sachant que cette maison va être détruite demain. On ne peut pas faire ça. Nous avons besoin de solutions durables. Nous avons besoin de pouvoir redonner la dignité du peuple congolais et nous devons faire des consensus. Le cas contraire, nous disons que cette loi ne nous concerne pas. Nous avons des moyens constitutionnels qui nous permettent de résister contre le groupe d'individus qui veulent prendre le pays par la force. C'est l'article 64 et le commandant du peuple nous a demandé de nous tenir prêts pour pouvoir réclamer notre droit constitutionnel. Alors nous sommes prêts, nous allons manifester, nous allons démontrer que cette loi, non seulement elle est en train de préparer la fraude électorale à venir, mais c'est un suicide pour la nation. C'est
Merci.
L'assassinat de la démocratie
Merci.
Et c'est la pérennisation des anti-valeurs et de l'illégitimité au niveau du pays.
Merci, M. Augustin Moulumba. Vous allez aussi conclure. Comment vous entrevoyez la suite du processus électoral après la promulgation de cette loi sur la CENI?
Nous demandons aux uns aux autres de se préparer. Nous ne voulons pas que la CENI devienne un apanage de groupes de pression en guette de positionnement. La loi est là, elle est impersonnelle de portée générale. Que tous les groupes se préparent pour affronter les élections en 2023. Donc, ici, il n'y a pas question même de texte. Le Congo a un problème d'hommes. Nous devons avoir les hommes de qualité pouvant permettre les pays avancer. Donc, ça peut être mon dernier mot.
Oui, Bishop Diamba, vous allez se conclure. Hein. Vous ne rejetez pas la loi comme vous l'avez dit. Mais ce qui pose problème, c'est plutôt le contenu de cette loi. Et maintenant que la loi a été promulguée, comment peut-on, avec le même contenu de cette loi, organiser des élections qui soient bonnes, des élections qui soient acceptées par tout le monde, au cas où rien n'est modifié, comme vous le souhaitez?
Avec la même loi, là, je peux concéder à ceux qui disent que, en fait, l'organisation des élections, c'est davantage une question d'hommes. Eh bien, nous voudrions que, lorsque les membres de la CENI seront désignés, que ça soit réellement des personnalités indépendantes, qu'il n'y ait pas de hauts cadres de partis politiques qui soient désignés parmi les membres de la CENI. Donc, ça, c'est une première chose, parce que la loi dit justement que les membres de CENI sont désignés parmi les personnalités indépendantes. Que ce soit des véritables personnalités indépendantes qui soient désignées, que ce soit par les confessions religieuses, la société civile, l'opposition et la majorité. Deuxième chose, c'est la bonne foi des acteurs et des parties prenantes. Donc, que les acteurs et les parties prenantes, les partis politiques, les institutions se s'abstiennent d'interférences, que ce soit dans la désignation ou même dans le fonctionnement de la CENI, et aussi assurer tous les droits des observateurs et des témoins et leur donner la possibilité d'accéder à toute l'information qui puisse être publiée par rapport à cela. Merci.
Merci à Chantal Mobony, Augustin Moulumba et Bishop Diamba d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à Jean-Claude Ntiala qui était la technique et que l'écoutait, et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.